Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire. Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi. J'espère que vous allez bien. Marianne Paquette derrière ce micro pour vous accompagner à travers cette émission de C'est bon pour la santé sur Canal M. La vision, ça joue un rôle très important. Parfois, on peut l'oublier, mais sur tout ce qui est lié au développement de l'enfant, que ce soit pour son apprentissage général, également sa réussite scolaire. Et selon l'Association des optométristes du Québec, près de 25 % des enfants d'âge scolaire souffrent de problèmes visuels et ça passe souvent sous le radar des parents. En deuxième partie d'émission, Dr Guy Julien, lui, optométriste et vice-président de l'Association des optométristes du Québec, sera là pour nous parler de prévention, donner des trucs aux parents aussi pour détecter ces soucis de vision-là et également de parler d'examens visuels annuels. Mais d'abord, selon le journal Les Affaires, les Canadiens consacrent 62 % de leur temps à leur boulot. C'est énorme. Et de l'autre côté de la médaille, le taux d'absentéisme qui est attribuable à la maladie, c'est 9,4 jours par employé. Ça occasionne des coûts annuels de 16,6 milliards de dollars. Donc, on passe plus de la moitié de notre temps au travail. Bien sûr, ça a une incidence importante sur la santé mentale, la santé physique. Pour nous aider à rendre notre milieu de travail plus sain, plus sécuritaire, plus agréable et connaître aussi nos droits, nos ressources, le juriste François Brodeur. Bonjour François.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là.
Ben, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité pour parler de CSST. Je suis tellement heureux.
Mais justement, parlons CSST parce que, évidemment, quand on pense santé, sécurité au travail, mm-hmm. c'est à eux qu'on pense. On les juge, on les critique pour bien des raisons que je n'ai pas nécessairement envie d'aborder aujourd'hui. Mais ce qui est important de souligner, je veux le faire d'entrée de jeu, c'est que si... on a une limitation fonctionnelle suite à un accident qu'on a vécu sur le milieu de notre travail, la CSST, si c'est dans le cas qu'une prothèse, une prothèse pourrait nous aider à réintégrer le milieu du travail, la CSST peut nous aider à payer cette prothèse-là.
Oui, en fait, les deux grands régimes qui remplacent votre indemnisation en cas de soit d'accident de la route, quand on parle de la SAQ, ou d'accident de travail, quand on parle de la CSST. Ces deux régimes-là prévoient, dans les mesures de réadaptation, la fourniture de prothèses et le paiement des prothèses. Alors, effectivement, vous avez droit, et ça peut aller assez loin, ça peut être assez dispendieux, on le voit, et ça peut être des prothèses de pointe. Si une prothèse vous aide à réintégrer le marché de l'emploi, c'est clair que pour la CSST, c'est beaucoup plus payant de vous aider à recommencer à travailler que de vous payer un salaire à rien faire chez vous. Mm-hmm. Donc, ils vont, je dirais, pas qu'ils vont être heureux de vous les payer, bien sûr, mais ils vont vous les fournir et c'est déjà beaucoup plus que le régime public. On pourrait en parler très, très longtemps, mais la santé à deux vitesses au Québec, ça existe notamment à cause de la CSST et de la SAQ.
Si la CSST peut nous aider à payer cette prothèse qui nous servira à réintégrer le travail, est-ce qu'elle peut également participer à payer des séances avec un psychologue, à payer des médicaments, un fauteuil roulant, par exemple?
Il y a plusieurs choses dans ce que vous me dites. On va se placer chronologiquement, si vous le voulez bien. Il survient un accident. La première chose qu'on va faire, que la CSST va faire, c'est vous consolider, c'est-à-dire vous ramener dans un état soit de guérison complète, soit là où la médecine peut vous amener. Okay? Dans certains cas, effectivement... Vous êtes complètement guéri, vous recommencez à travailler, il ne s'est rien passé, tout va bien. Pendant cette période-là, la CSST, effectivement, va vous fournir tout ce qui est nécessaire à votre guérison ou à l'amélioration de votre condition. Une fois que vous êtes consolidé, là, on constate l'étendue des dommages permanents, malheureusement. Là, on parle de réadaptation. Mm-hmm. Il y a trois sortes de réadaptation. Il y a la réadaptation physique, bien sûr, et là, ça inclut les prothèses, la fourniture, l'adaptation du poste de travail, notamment. Mm-hmm. Si vous réintégrez votre emploi et que vous êtes capable de réintégrer votre emploi, si on vous fournit, je ne sais pas, moi, par exemple, une barre tactile pour lire du braille ou des écouteurs spéciaux ou un siège particulier, ou si on adapte votre bureau pour que vous puissiez vous y rendre en fauteuil roulant, La CSST va payer ça. Ça fait partie de la réadaptation qui paye. Il y a la réadaptation sociale également. La CSST, si vous êtes plus capable de tondre votre gazon, va vous payer les services d'un paysager qui va s'occuper de tondre votre gazon et qui, à toutes les, je crois que c'est tous les deux ans, va repeindre la maison, par exemple, ou faire un grand ménage. Il y a des choses qui sont incluses, qui permettent donc de rester dans le milieu où vous vivez. Ça va inclure, dans certains cas, oui, des consultations psychologiques parce que vous êtes en stress post-traumatique, que vous êtes déprimé ou, et c'est malheureux, mais il y a des incidents qui, parfois, provoquent la naissance de maladies mentales.
Bien sûr, notamment dans le milieu du travail. On fait quoi, François, pour avoir recours à tous ces services-là? Est-ce que tous les travailleurs y ont droit?
Au moment où je vous parle, à la fin de 2013, parce que les chiffres de 2014 ne sont pas sortis, il y avait plus ou moins 3 550 000 salariés au Québec qui pouvaient bénéficier de la couverture d'assurance de leur employeur. Mm-hmm. Je le présente comme ça parce que les gens s'imaginent que la CSST, c'est un droit des salariés. L'assuré, c'est l'employeur. Le salarié, lui, c'est la personne qui bénéficie de la couverture. La nuance est importante, puis éventuellement, si on a le temps d'y revenir, j'aimerais ça.
Le temps, c'est ça qui va nous manquer aujourd'hui.
Oui, ça va nous manquer. On pourrait initier une relation suivie là-dessus, vous et moi. Donc, quand il survient un accident, il y a plusieurs scénarios possibles. Ça peut être un bobo, vous continuez à travailler. Vous le dites. Vous le dites simplement à votre employeur.
Le moindre bobo, on doit le mentionner.
Oui, toujours, toujours. Je vous donne un cas de figure complètement idiot, là, mais si vous avez une hernie, vous faites une hernie en travaillant, ça fait juste un petit pop dans le ventre. C'est presque rien. Et pendant 3 mois, 6 mois, 2 ans, ça peut ne rien faire, mais vous vous êtes fait une hernie. Un jour, il y a malheureusement un petit bout de votre physionomie qui passe par ce petit trou-là, et là, ça devient très, très, très douloureux. Okay. Il est important qu'on ait documenté à l'origine le fait que c'est arrivé au travail. Parce que ce qui va fonder la compétence de la CSST et vos droits en vertu de cette loi-là, c'est que votre lésion professionnelle soit survenue par le fait ou à l'occasion de votre travail.
Oui.
Alors, c'est très, très important, dès que vous vous blessez, de le signaler. Et je fais un aparté ici parce que souvent, on décourage les salariés de faire ça. Vous savez, on voit souvent ça dans des usines, des panneaux du genre 222 jours sans accident.
Oui, puis par souhait de performance aussi, parce que l'employeur a certaines exigences.
Oui, ça peut vouloir dire, regardez comment on encourage la sécurité ici, puis c'est important, ça peut être la culture qu'on veut installer, mais ça peut aussi vouloir décourager le salarié d'être celui qui va remettre le compteur à zéro. Et ça, il ne faut pas que ça arrive. C'est vraiment important. Et c'est important pour plusieurs raisons aussi. L'autre motif qu'on voyait aussi souvent, c'est des employeurs qui disaient « Ah, laisse faire ça, la CSST, c'est trop compliqué. On a une assurance à shop, une assurance privée, on paye pas. Sartoisant, c'est plus simple, tu as juste à demander. » Sauf qu'à ce moment-là, votre accident de travail n'est plus un accident de travail. Si ça se complique quand votre assurance est finie ou quand vous avez changé d'emploi, vous ne serez pas couvert par la CSST pour cet accident-là.
Mais concrètement, alors, les actions, on avertit okay. qui, l'employeur?
Vous avertissez votre supérieur immédiat. Ça, c'est la première chose à faire. Okay? Si vous devez quitter l'entreprise pour aller vous faire soigner, effectivement, ben là, vous allez à l'hôpital, mais dès que possible, vous avertissez l'employeur. Vous quittez l'entreprise, là, il y a plusieurs scénarios possibles. Dans les 14 jours suivants, si vous ne pouvez pas travailler, donc vous manquez 14 jours, et plus que 14 jours, là, il faut faire une réclamation formelle à la CSST. Votre employeur va continuer à vous verser votre 90 % de votre revenu brut, de votre revenu net, pardon. Et faire attention ici, parce que ça n'inclut pas l'assurance chômage, ça n'inclut pas les rentes. Bref, vous perdez des droits, là, mais vous touchez 90 % de votre net quand même pour ces 2 semaines-là que l'employeur se fait rembourser par la CSST. Mais après ça, c'est la CSST qui va remplacer votre revenu.
Est-ce que la CSST peut refuser une réclamation?
Elle le peut. Elle le fait dans 20 % des cas.
Ah oui, c'est quand même beaucoup.
Oui, c'est beaucoup. Soit qu'elle estime que ce n'est pas survenu au travail, qu'elle ne croit pas le salarié, soit que, par exemple, on va dire ce qui t'est arrivé, ce n'est pas un accident de travail, ou il y a différentes possibilités. Il y a une clause, par exemple, dans un article dans la loi qui prévoit que le salarié qui se blesse volontairement en désobéissant à son employeur, il n'est pas couvert.
Donc, j'imagine que dans ces cas-là, il faut s'assurer d'avoir des preuves, d'avoir un collègue qui a pu observer ce qui s'est passé.
Oui, et La loi impose à votre employeur de vous assister dans la préparation de votre réclamation.
Mm-hmm.
Alors, vous allez rencontrer quelqu'un au personnel, il va sortir le formulaire. Faites attention, ils ont tendance à remplir les formulaires à votre place et à écrire l'histoire à votre place, puis des fois, de la façon dont elle est écrite, l'histoire, bien, vous vous tirez une balle dans le pied.
Oui.
Ça peut être important. On doit vous aider à faire cette réclamation-là, qui est une réclame, un formulaire de quelques pages. C'est pas terriblement long à compléter, là, mais ça peut être encombrant. Cette réclamation-là, vous la complétez, donc, si vous pensez que vous allez avoir quelque chose à réclamer. Comme je vous disais, la principale indemnité pendant votre période de guérison, c'est l'indemnité de 90 % de votre revenu net. Bon, c'est censé être non imposable, mais dans les faits, vous perdez votre crédit d'impôt. Mais il y a toutes les indemnités accessoires qui comptent aussi. C'est-à-dire toutes les dépenses que vous encourez pour aller vous faire soigner, mm-hmm. C'est couvert.
Le taxi
ou le stationnement de l'hôpital,
ouais.
À 12 $ par jour, ça monte vite quand on a trois rendez-vous. Le physio, d'ailleurs, la physiothérapie au Québec, c'est un don de la CSST puis de la SAQ. Là, c'est deux organismes-là qui fournissent l'essentiel de la clientèle.
Mm-hmm. François, certains travailleurs sont plus exposés que d'autres à des risques dans leur milieu de travail. Mm-hmm. Est-ce que l'on peut refuser de faire un travail que l'on pense risqué pour notre santé?
Oui, mais il y a des balises.
OK.
OK. Tout le monde a le droit de... Puis pas simplement pour sa santé, mais pour la santé d'autrui ici. Tout le monde a le droit mm-hmm. de refuser de faire un travail qui est dangereux pour soi ou pour autrui, sauf si le fait de refuser de faire ce travail-là met quelqu'un en danger.
Ouais.
Par exemple, on peut imaginer qu'un chirurgien, il découvre que la personne qui est en train d'opérer a le sida, lui, il veut pas l'attraper, alors il décide qu'il arrête là. Ben non, c'est pas acceptable, là. T'as l'obligation de terminer ou à tout le moins de le sécuriser avant de le quitter.
Mm-hmm.
T'as le droit de faire ça. T'as le droit de refuser de travailler, donc, si ça survient, un refus. Sauf si ça fait partie de ton travail. T'sais, okay. Un pompier qui dirait « je vois pas là, il y a le feu ».
Ah oui, 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 oui.
On serait dans une situation un peu tordue. Alors, s'il s'agit de si c'est pas son travail ordinaire, son refus ne met pas quelqu'un en danger, oui, vous avez le droit de refuser.
Mm-hmm.
Ce qui se produit à ce moment-là, c'est que le patron fait venir une tierce personne qui, généralement, est un délégué syndical à la santé-sécurité ou un délégué syndical ordinaire. On débat, on décide est-ce que c'est dangereux ou pas. Et pendant ce temps-là, il ne peut pas nommer quelqu'un d'autre, le patron. Là, le boulot est arrêté.
Mm-hmm, mm-hmm.
OK. Mais là, il y a différentes variantes. Il y a des raisons subjectives de ne pas vouloir faire un travail dangereux. Par exemple, moi, j'ai le vertige. J'y peux rien, j'ai le vertige.
Mais là, vous n'avez pas le vertige mm-hmm. ici, là?
Ça dépend. Mais monter dans un escabeau, ça me terrorise. C'est-à-dire, c'est dangereux pour moi. Je suis en danger dans une échelle. Alors, mais le travailleur à côté de moi, il ne sera pas. Alors, si je veux dire à l'employeur, regarde, c'est pas mes tâches habituelles, je ne m'oppose pas, mais mm-hmm. Alors, si l'employeur ne comprend pas ça, il y a un problème.
Mais dans le cas où ce n'est pas nécessairement un risque pour notre santé, notre vie, mais plutôt des précautions, c'est-à-dire un fauteuil adéquat, l'écran, tout l'équipement de bureau, est-ce qu'on peut faire des demandes à notre employeur? C'est dans nos droits de le faire?
Vous avez droit... Ce que la loi sur la santé et sécurité du travail dit, c'est que vous avez droit à un environnement de travail sécuritaire. La loi ne va pas jusqu'à dire vous avez droit aux mesures ergonomiques idéales. Parce qu'évidemment, chacun a ses préférences. Donc, s'il n'y a pas de danger à proprement parler, vous ne pouvez pas faire une représentation en ce sens-là. Mm-hmm. Vous pouvez toujours le faire pour des raisons logiques du genre, regarde, si je ne fais pas ça, on va avoir des problèmes plus tard et c'est plus payant pour l'employeur. C'est ce que je voulais aborder tout à l'heure en disant, parce que ça, les gens le savent moins, c'est que toutes les dépenses de la CSST en bout de piste sont couvertes par les employeurs.
Mm-hmm.
Okay? Donc, si vous démontrez à votre employeur qu'il y a une économie réelle à éviter telle ou telle chose, c'est votre employeur en bout de piste qui met des sous dans sa poche.
Oui, et il devrait trouver ça intéressant.
Alors, présenté comme ça, voyez-vous, il y a un avantage à le faire.
Il y a aussi des employés qui sont plus à risque. Je pense notamment aux femmes enceintes. J'avais mm-hmm. envie d'aborder ça. Ça m'intéresse personnellement.
Non.
Est-ce qu'il y a des
On ne dirait pas.
Est-ce qu'il y a des précautions à prendre? À quoi il faut s'attarder, autant en tant qu'employé qu'employeur?
OK. Pour la femme enceinte, le mécanisme de retrait préventif est relativement simple. On va consulter son médecin dès qu'on est enceinte, évidemment. Remarquez, ça ne m'est pas arrivé récemment. Donc, vous allez consulter votre médecin et si votre médecin, tous les médecins le font en pratique, ils vont vous poser des questions sur ce que vous faites parce qu'on va le vérifier. Mais dans tous les cas de figure, il faut parler de son occupation à son médecin. Okay, pour lui dire ce qu'on fait, histoire de vérifier s'il y a un danger pour la femme enceinte elle-même ou pour le fœtus. Mm-hmm. Le médecin, s'il estime qu'il y a un danger et que votre occupation professionnelle est incompatible, puis il y a différentes raisons pour ça, là. Par exemple, si vous travaillez en milieu hospitalier, il y a des problèmes de violence, il y a des problèmes d'infection, il y a des... le médecin va vous dire non, tu ne peux plus travailler là. Mais si l'hôpital peut t'offrir tel ou tel type de travail à côté, avec la certitude donc que tu ne seras pas en danger, l'hôpital peut t'offrir une autre tâche, puis tu continues à être payé selon ce que tu gagnais auparavant pour faire cette autre tâche-là, mm-hmm. là, ça passe. Mm-hmm. Si c'est, cette autre tâche-là n'existe pas, ben tu restes chez vous et tu es indemnisé à ce moment-là par la CSST.
Mm-hmm. Vous parliez de violence, ça m'a fait penser à tout ce qui est lié. Évidemment, il y a plein de volets au milieu du travail. Malheureusement, harcèlement, on peut penser à harcèlement psychologique, harcèlement sexuel mm-hmm. également, qui arrive parfois, malheureusement, dans certains milieux de travail. À ce moment-là, comment, quels sont les recours pour les employés?
Il y en a plusieurs. À froid, comme ça, je dirais, il y a le recours en vertu de la loi sur les normes du travail qui existe. Vous avez droit à un milieu de travail libre de harcèlement. C'est ce que la loi dit. Ce sont, dans tous les cas de figure, des dossiers difficiles. Parce que...
Et de longue haleine, souvent.
Ben
aussi.
Oui, le niveau de preuve n'est pas facile. Et quand vous êtes une personne harcelée, une des caractéristiques de votre victimisation, c'est que ça vous bouffe votre énergie. Alors, vous n'avez pas envie de vous battre. Souvent, c'est des dossiers où il faut faire une preuve complexe. En principe, voyez-vous, si on le traite comme une maladie, parce qu'on peut le traiter comme une dépression professionnelle, si on le traite comme une maladie, on va faire exactement comme si c'était une maladie professionnelle, et on va distinguer éventuellement accident du travail et maladie professionnelle, et à ce moment-là, on part avec votre diagnostic médical, et ça va être traité, donc, comme si vous étiez malade à cause du travail. Mais la difficulté dans un cas de dépression, c'est de prouver que vous êtes déprimé à cause du travail. Et ça, c'est pas évident.
Vous vouliez faire la nuance entre accident de travail, maladie professionnelle?
Oui, parce que pour les gens, c'est pas toujours clair. C'est évident que si vous avez une chute puis que vous ouvrez une fracture ouverte à la cuisse, bon, c'est un accident du travail. Mais les maladies professionnelles, ça se développe longtemps. Ça peut se développer après une chute. Ça peut se développer... par exemple, vous pouvez perdre l'audition des années après avoir cessé de travailler. Ça va rester une maladie professionnelle. Vous avez le droit d'être indemnisé, vous avez le droit aux prothèses, vous avez le droit à plein de choses. Ça existe, mais c'est plus compliqué parce que la relation de cause à effet est difficile à établir. Mm-hmm. Je vous donne un exemple bête et banal. On estime, la CSST elle-même qui le dit dans son rapport de recherche, qu'à peine 2 à 3 % des cancers professionnels sont reconnus actuellement. Parce que vous pouvez difficilement prouver que vous avez été exposé à telle matière cancérigène 25, 30 ou 40 ans auparavant. La difficulté de preuve fait en sorte que c'est presque impossible, à l'exception des trucs causés par l'amiante.
En terminant, est-ce qu'il y a suffisamment de prévention dans les milieux de travail au Québec?
Il n'y en a jamais trop de la prévention. De l'autre côté, le propre d'un accident, quand on le regarde après coup, c'est de dire « j'aurais pu l'éviter ». Oui, on peut tous les éviter, les accidents. Puis j'ai le sentiment qu'il va y en avoir un autre qui va arriver ensuite et c'est souvent bête et banal. Est-ce qu'on peut donc éviter tous les accidents? La réponse, c'est non. Et est-ce qu'on le veut? Je ne crois pas qu'on le veuille non plus parce que ça serait lourd.
Oui. François Brodeur, vous êtes juriste. Merci beaucoup. J'espère ne pas vous avoir donné trop le vertige aujourd'hui.
Ah, toujours.
Au plaisir. Il y aura encore plein de volets, hein, on le sait, à couvrir. Ben, vous reviendrez. On n'est pas sorteux.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635. Et par courriel à mpaquette@commercialevusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial, canal, _M.
Docteur Guy Julien, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes optométriste, vice-président de l'Association des optométristes du Québec et en parallèle, mon optométriste depuis 10 ans. Mais ce n'est qu'une coïncidence, on tient à le dire.
Hein? Ah bon, oui. Ça fait plaisir.
Guy, et les chiffres sont quand même assez étonnants. On parle d'à peu près 25 % des enfants qui vivent avec différents problèmes de santé visuelle, mais c'est passé sous le radar des parents. Comment on peut expliquer ça?
Bien, voici, c'est que évidemment, lorsqu'on est un enfant, il est difficile d'exprimer, surtout lorsqu'il s'agit d'un problème oculaire qui peut être présent depuis longtemps, quelle est la normalité d'une vision quand on est enfant. Alors, à ce moment-là, évidemment, il faut que les parents soient à l'affût de peut-être des petits comportements différents par rapport à un enfant dont la vision serait normale. Je vous donne un exemple. Alors, si un enfant plisse les yeux, lorsqu'il garde au loin, lorsqu'on a enfant, lorsqu'il est dans un jeune âge, a de la difficulté à courir vers ses jouets, à jouer avec, ou s'il est un petit peu, s'il a une tête un peu penchée vers le côté ou l'autre. Alors, il y a des petites informations, des petites notifications qu'un parent qui doit être alerte vis-à-vis surtout les enfants jeunes. Mm-hmm. Alors, souvent, ce qui se passe, c'est que les enfants ne réalisent pas qu'ils ont un problème parce qu'ils ne savent pas exactement quelle est la véritable façon de pouvoir bien voir. Et c'est la raison pour laquelle il est essentiel, surtout dans une semaine de relâche. C'est pour ça que l'Association des optométristes fait quand même une campagne pour solliciter les enfants à se faire examiner les yeux d'une manière régulière, surtout que dans le cas des enfants en bas de 18 ans, la régie d'assurance maladie couvre pour ces examens-là.
Est-ce que l'enfant peut se plaindre de certaines douleurs qui pourraient dénoter un souci de santé visuelle?
Des douleurs, ce sont toujours possibles. À ce moment-là, quand un enfant a une douleur, bien évidemment, il peut en faire mention à ses parents, et là, il peut être, à ce moment-là, on peut demander une consultation pour pouvoir voir quelle est la problématique. Mais plus souvent qu'autrement, les problématiques des enfants sont des problématiques qui n'engendre aucune douleur. Mm-hmm. D'où l'importance de faire un examen, parce que à moins qu'un patient soit, qu'un parent soit lui-même un optométriste, pour déceler des problématiques comme la myopie, l'hypermétropie, l'ambiopie, l'astigmatisme, qui sont tous des problèmes oculaires qui peuvent occasionner des pertes de vision chez l'enfant, il n'y a aucune douleur associée à cette problématique-là.
Oui, et si ce n'est pas diagnostiqué, ça peut avoir un impact à long terme, là, comme vous venez de mentionner sur la santé de l'enfant.
Bien, absolument. C'est-à-dire que ce qu'il faut concevoir, avant toute chose, c'est qu'il est acquis depuis longtemps que 80 % des connaissances que les jeunes ont, que toute personne a, est essentiellement acquise par les yeux. Alors, surtout de nos jours, dans les années 2000, les enfants sont sollicités par les ordinateurs, les tablettes électroniques, les téléphones intelligents. Leurs jeux sont essentiellement associés à ce genre de technologie qui est là pour demeurer pour les prochaines années les prochaines dizaines d'années. Alors, d'où l'importance d'avoir une vision qui permet à l'enfant de pouvoir se développer et d'améliorer ses connaissances, parce que si évidemment il y a un problème oculaire qui fait en sorte que il y a des complications pour sa scolarité, pour son développement. Alors, il y a un manque de concentration qui s'installe, il y a une diminution de l'intérêt. Alors, par voie de conséquence, la réussite peut être altérée. Il y a une diminution des connaissances qu'il doit avoir pour une certaine scolarité. Et à ce moment-là, il peut y avoir un abandon de l'enfant pour pouvoir se concentrer, de telle sorte que ça engendre des problématiques dans la société.
Oui, une statistique plutôt troublante. Un enfant d'âge scolaire sur 6 ayant reçu un diagnostic de problème d'apprentissage présente plutôt un problème de vision susceptible d'être corrigé. Ça va pas mal dans le sens que vous venez de mentionner, Dr. Julien.
Voilà. C'est-à-dire que les problèmes d'apprentissage sont multiples. Effectivement, il peut y avoir des problèmes d'apprentissage dus aux problèmes visuels. Ça, quand c'est traité, ça peut être facilement corrigé. Alors, on pourrait régler cette problématique-là dans au moins un sixième des cas, ce qui peut être quand même un nombre de jeunes patients ou de jeunes patientes quand même assez appréciable.
Faut-il attendre que l'enfant soit d'âge scolaire pour l'amener voir un optométriste pour un examen de la vue?
Ce que l'on dit essentiellement, c'est que du moment que les parents ont une impression que l'enfant peut avoir des problèmes. Comme j'expliquais tout à l'heure, soit qu'il plisse les yeux, soit qu'il ait de la difficulté à atteindre les jouets avec lesquels il joue. Un enfant doit être examiné si un des parents a l'impression qu'il peut avoir un strabisme, c'est-à-dire un œil qui dévie, soit vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Ce parent-là devrait amener leurs enfants chez l'optométriste le plus rapidement possible. Et même chez des enfants qui sont relativement jeunes, on a des tests qu'on en appelle objectifs. Évidemment, plus l'enfant est âgé, plus il y a des tests subjectifs où on peut lui faire coopérer avec l'examinateur, mais il y a quand même des tests objectifs qui sont quand même particulièrement valables. Et sans avoir une pleine coopération de l'enfant, on peut quand même avoir des résultats qui sont significatifs et qui pourraient régler la situation.
Oui, j'imagine que ça se passe un petit peu différent, l'approche avec un enfant quand il vient vous rencontrer. Docteur Julien, ça doit être un petit peu plus ludique.
Bien, c'est sûr. On essaie d'enlever notre blouson blanc, on essaie de sourire, on lui montre des petites images, on lui montre des jouets. Alors, on essaie essentiellement de l'amadouer de la meilleure façon possible. Et de toute façon, les tests en tant que tels que nous exécutons dans des salles d'examen des optométristes, ce ne sont pas des tests qui sont invasifs, c'est-à-dire qui sont douloureux pour l'enfant. Alors, sa première impression, et souvent de fois, il faut peut-être les revoir une deuxième fois juste pour les amadouer dans un premier temps et pour pouvoir faire des tests un petit peu plus approfondis dans un deuxième temps lorsque l'enfant a commencé à s'apercevoir que c'est même agréable de venir voir un optométriste.
Oui, et surtout vous, docteur Julien, oui. Je peux l'affirmer. Donc, important de rappeler à tous les parents du Québec que l'examen complet des yeux de leur enfant, c'est gratuit jusqu'à l'âge de 18 ans. Bien sûr, en cette semaine de relâche, on sensibilise les parents à ce problème, mais en même temps, c'est à l'année longue, bien sûr, docteur Julien.
Ah oui, absolument. Écoutez, ça, c'est tout simplement c'est une séquence où il y a une semaine de relâche où là, les enfants sont en congé, les parents peuvent amener les enfants durant les heures d'école et de telle sorte que ça met les enfants dans l'engrenage de se faire examiner les yeux, un peu comme on va chez le dentiste.
Et c'est voilà.
C'est un peu la sensation que l'on veut donner aux parents.
Dr. Guy Julien, vous êtes optométriste, vice-président de l'Association des optométristes du Québec, www.aoqnet.qc.ca. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui.
Je vous en prie, Marianne.
Au revoir.
Au revoir.
Rémi Hermoso à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. On vous donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.